Chapitre 2. Madame Glegg et le pouce de Bob. Tandis que les combats de Maggie se concentraient entièrement dans son âme, où une armée d'ombres se battait contre d'autres, et où celle qui semblait vaincue pour toujours se relevait de nouveau, Tom était engagé dans un service plus actif, plus bruyant, luttant avec des obstacles plus réellement substantiels et obtenant des victoires plus positives. Il en a toujours été ainsi depuis les jours d'Hécube et d'Hector, le grand dompteur de chevaux. La vie privée des femmes est toute passive. Dans leurs angoisses, les cheveux épars et les mains levées au ciel, elles offrent des prières regardant de loin le combat du monde, remplissant leurs longues et monotones journées de souvenirs et de craintes. Au dehors, les hommes luttent fièrement contre les choses divines et humaines, trouvent dans leur passé une lumière plus vive pour éclairer leur but, et perdent le sentiment de la peur et même des blessures dans la puissante ardeur de l'action. D'après ce que vous avez vu de Tom, vous ne le jugez pas un jeune homme pour lequel on puisse craindre l'insuccès dans ce qu'il veut fortement. Les parieurs seront probablement de son côté, malgré son peu d'aptitude aux études classiques. Car Tom n'avait jamais désiré réussir dans cette voie-là, et pour développer l'ineptie, il n'y a rien de tel que d'inonder un esprit d'une certaine quantité de sujets pour lesquels il n'éprouve aucun intérêt. Mais maintenant, la volonté de Tom se réunissant à son intégrité, à sa fierté, à ses regrets de famille et à son ambition personnelle, en faisait une seule force qui, concentrant ses efforts, surmontait le découragement. Son oncle Dean, qui le surveillait de près, commença bientôt à concevoir des espérances à son sujet, et à être vraiment fier d'avoir introduit parmi les employés de l'association un neveu qui paraissait d'une si bonne étoffe commerciale. Son attention bienveillante de l'avoir placé d'abord dans la marchandise fut bientôt évidente pour Tom, par les allusions que son oncle commença à faire, à ce qu'après quelque temps, on pourrait peut-être le faire voyager en certaines saisons, afin d'acheter pour la maison quelques marchandises ordinaires, du nom desquelles je ne choquerai pas ici les oreilles délicates. C'est indubitablement en vue de ce résultat que M. Dean, quand il était seul à prendre son vin, disait à Tom d'entrer et de s'asseoir vers lui, et passait une heure à le renseigner et à le catéchiser sur les articles d'importation et d'exportation, faisant une excursion occasionnelle, d'une utilité plus indirecte, sur les avantages relatifs qu'il y avait pour les marchands de St. Ogg's à employer pour le transport de leurs marchandises leurs propres bâtiments plutôt que ceux des étrangers. Sujet sur lequel M. Dean, comme propriétaire de bâtiments de transport, jetait naturellement quelques traits de lumière quand il était animé par le vin et la conversation. Dès la seconde année, le salaire de Tom fut augmenté. Mais le tout, excepté ce qu'il prélevait pour son dîner et ses vêtements, allait à la maison dans la boîte d'étain. Et il évitait soigneusement la camaraderie dans la crainte d'être entraîné à des dépenses en dépit de lui-même. Ce n'est point que Tom fût coulé dans le moule de ce type mesquin et appauvri de l'apprenti industrieux. Il avait un très vigoureux appétit pour le plaisir. Il aurait aimé à être un dompteur de chevaux et à faire figure, à dispenser des gracieusetés et des bienfaits avec une libéralité de bon jugement, et à être reconnu comme le plus important des jeunes gens du pays. Il était bien déterminé à arriver à tout cela tôt ou tard. Mais sa finesse pratique lui disait que le moyen d'y parvenir n'existait pour lui que dans l'abstinence et les privations du moment. Il y avait certaines difficultés à surmonter, et l'une des premières était le paiement des dettes de son père. Une fois cette résolution prise, il allait en avant sans se détourner, avec un courage stoïque, comme tout jeune homme doit le faire quand il est prématurément appelé à ne devoir compter que sur lui-même. Tom sentait profondément, par suite de son orgueil de famille, qu'il faisait cause commune avec son père, et il était décidé à être un fils irréprochable. Mais son expérience croissante lui faisait comprendre la nécessité du silence vis-à-vis de son père sur la conduite emportée et imprudente qu'il avait tenue. Leurs dispositions actuelles ne sympathisaient pas, et la figure de Tom restait froide pendant le peu d'heures qu'il passait à la maison. Maggie avait pour lui une espèce de crainte respectueuse, contre laquelle elle luttait, comme n'étant point en harmonie avec la largeur d'idées et la profondeur des motifs qui la dirigeaient habituellement. Mais à quoi servait de lutter? Un caractère toujours d'accord avec lui-même, qui exécute ce qu'il projette, qui domine toute tendance contraire et ne veut rien que ce qui est distinctement possible, ce caractère est fort, même par ce qui lui manque. Vous pouvez supposer que la dissemblance de plus en plus évidente de Tom avec son père était bien propre à lui concilier ses tantes et ses oncles maternels. Les rapports favorables de M. Dean et les prédictions de M. Glegg touchant l'aptitude de Tom aux affaires commencèrent à être discutés entre eux avec différents degrés de confiance. Il paraissait probable qu'il ferait honneur à la famille sans lui causer de dépenses ni d'embarras. Mme Pullet avait toujours pensé qu'il serait singulier que l'excellent teint de Tom, si entièrement celui des Dodson, ne prédit pas avec certitude qu'il tournerait bien. Ses erreurs juvéniles, telles que d'abattre la girouette, et en général son peu de respect pour ses tantes, indiquant seulement une teinte de sang Taleva, dont il s'était certainement débarrassé en grandissant. M. Glegg, qui avait une confiance prudente à l'égard de Tom depuis sa conduite courageuse et sensée lors de la vente judiciaire du mobilier, prenait à cœur maintenant la résolution de l'aider activement pour son avenir, quand une occasion se présenterait de le faire une fois, d'une manière sûre, sans courir de risque. Mais Mme Glegg observa qu'elle n'était pas portée à parler comme un livre, ainsi que quelques personnes, que ceux qui disaient le moins pourraient probablement le mieux justifier leurs paroles, et que lorsque le moment favorable viendrait, on pourrait voir qui est-ce qui ferait mieux que de parler. L'oncle Pullet, après une silencieuse méditation, aidé par la succion de plusieurs pastilles, en vint distinctement à la sage conclusion que lorsqu'un jeune homme annonçait devoir si bien réussir, il valait mieux ne pas s'en mêler. Tom, pendant ce temps, n'avait montré aucune intention de compter sur personne que sur lui-même, malgré qu'il comprît toutes les insinuations de bienveillance à son égard. Mais il fut bien aise de voir son oncle Glegg le regarder d'une manière amicale pendant les heures d'affaires, et l'inviter à dîner chez lui, quoiqu'il eût généralement préféré refuser, sous le prétexte qu'il n'était pas sûr d'être ponctuel. Mais, depuis une année environ, il était survenu quelque chose qui engagea Tom à mettre à l'épreuve les dispositions de son oncle Glegg. Bob Jakin, qui revenait rarement d'une de ses journées sans voir Maggie et Tom, attendit ce dernier sur le pont un soir qu'il retournait de St. Ogg's à la maison, afin d'avoir avec lui une petite conversation particulière. Il prit la liberté de demander si M. Tom avait jamais eu l'occasion de faire un peu d'affaires de commerce pour son propre compte. Commercer? Comment? Tom serait curieux de le savoir. Mais, en envoyant une petite cargaison dans les ports étrangers, parce que Bob avait un ami particulier qui lui avait offert de faire pour lui quelques petites spéculations de ce genre en marchandises de Laysom, et qu'il serait bien aise de rendre service à M. Tom sur le même pied. Tom prit de suite intérêt à la chose, et demanda des explications plus complètes, étonné de n'y avoir pas songé plus tôt. Il fut si satisfait de la perspective d'une spéculation qui pourrait changer le long procédé de l'addition en multiplication, qu'il se détermina immédiatement à en faire mention à son père et à destiner une partie des épargnes de la boîte d'étain à acheter une petite pacotille. Il aurait préféré ne pas consulter son père, mais il venait justement de mettre le revenu de son dernier trimestre dans la boîte et il n'avait pas d'autres ressources. Toutes les épargnes étaient là, car M. Taleva n'aurait pas consenti à placer cet argent à intérêt dans la crainte de le perdre. Depuis qu'il avait spéculé sur un achat de grains et qu'il y avait perdu, il ne pouvait être tranquille s'il n'avait pas la somme sous les yeux. Tom amena le sujet avec précaution. Il était assis ce soir-là près du feu avec son père, et M. Taleva l'écouta, penché en avant sur son fauteuil et regardant Tom fixement d'un œil sceptique. Sa première impulsion fut de donner un refus formel. Mais il avait quelque respect pour les désirs de Tom, et depuis qu'il se regardait comme un père à mauvaise chance, il avait perdu sa force de volonté primitive et sa détermination à être le maître. Il prit la clé du bureau dans sa poche, sortit celle de la grande armoire et en descendit la boîte d'étain, lentement, comme pour différer le moment d'une douloureuse séparation. Puis il s'assit près de la boîte et l'ouvrit avec cette petite clé de cadenas qu'il maniait dans la poche de son gilet pendant tous ces moments d'inoccupation. Les voilà, ces billets de banque froissés et ces brillants souverains. Il les compte sur la table. Il n'y a en tout que 116 livres en 2 ans, après tant de privations. « Combien te faut-il alors ?» dit-il en parlant comme si les paroles brûlaient ses lèvres. « Supposons que je commence avec 36 livres, père, » dit Tom. M. Tarlivar sépara cette somme du reste et, posant la main dessus, dit « C'est autant que je puis économiser sur ma paye d'une année. » « Oui, père, c'est un travail si lent que d'économiser sur le peu d'argent que nous recevons. De cette manière, nous pourrions doubler nos économies. »« Oui, mon garçon, » dit le père, tenant toujours la main sur l'argent. « Mais tu peux le perdre. Tu peux perdre une année de ma vie, et il ne m'en reste pas beaucoup. » Tom était silencieux. « Et tu sais que je ne voudrais pas payer un dividende avec les premières 100 livres, parce que je désirais les voir tout en un bloc. » Il vaut mieux tenir que courir. Si tu te fies à la chance, elle est toute contre moi. C'est le vieux Harry qui a la bonne chance en main. Et si je perds une année, je ne la retrouverai jamais. La mort me devancera. J'y renoncerai, père, puisque cela vous contrarie autant. Mais, ne voulant point abandonner ce projet, il se décida à demander à son oncle Glegg de lui avancer 20 livres, à la condition de recevoir 5% des bénéfices. C'était vraiment demander peu de choses. Aussi, quand Bob vint le lendemain à l'entrepôt savoir sa décision, Tom lui proposa d'aller ensemble chez son oncle Glegg pour entamer l'affaire, car sa fierté peu confiante l'embarrassait et lui faisait sentir que la langue de Bob viendrait à son secours. Monsieur Glegg, au moment agréable de 4 heures de l'après-midi d'une chaude journée d'août, s'occupait naturellement à compter les fruits de ses espaliers pour s'assurer que la somme totale n'avait pas varié depuis la veille. Voici Tom qui entre dans une société très douteuse aux yeux de M. Glegg, celle d'un homme avec une balle sur ses épaules, car Bob était équipé pour une nouvelle tournée, et un vilain chien terrier zébré qui marche avec un léger mouvement ondulé de droite à gauche et regarde dessous ses paupières avec une indifférence sournoise qui pourrait bien, après tout, cacher les desseins les plus offensifs. Les lunettes de M. Glegg, qui l'avait aidé à compter ses fruits, rendaient ces détails suspects très alarmants pour lui. « Allons, tenez ce chien à distance, entendez-vous » cria-t-il en arrachant un pieu et le plaçant devant lui comme bouclier quand les visiteurs furent à environ 3 pas de sa personne. « Ôte-toi de là, Mumps, » dit Bob avec un coup de pied. « Il est aussi tranquille qu'un agneau, monsieur, » observation que Mumps corrobora par un sourd gémissement en se retirant derrière les jambes de son maître. « Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire, Tom ?» dit M. Glegg. « Est-ce que vous m'apportez quelques renseignements sur les coquins qui ont coupé mes arbres ?» Si Bob se présentait avec le titre de « renseignement », M. Glegg trouverait quelque raison de tolérer tant d'irrégularités. « Non, monsieur, » dit Tom, « je viens pour vous parler d'une petite affaire qui me concerne. »« Ah, bien. Mais quel rapport cela a-t-il avec ce chien ?» dit le vieux monsieur en s'adoucissant. « C'est mon chien, monsieur, » dit Bob, toujours prêt, « et c'est moi qui ai donné l'idée à monsieur Tom de cette petite affaire. Car monsieur Tom a été un ami pour moi depuis que j'étais un petit gamin. La première chose que j'ai faite a été d'effrayer les oiseaux pour le vieux maître. Et s'il se présente un bout de chance, je pense toujours à tâcher que monsieur Tom puisse en tirer quelque chose. » Ce serait vraiment honteux que lorsqu'il peut faire un peu d'argent en envoyant les marchandises au dehors, 10 ou 12% net, le fret et les commissions payées, qu'il ne pût profiter de cette chance faute d'argent. Quand il y a les marchandises de Laysom sur ma tête, elles sont faites exprès pour les gens qui désirent envoyer une petite cargaison, si légère et prenant si peu de place. Vous pouvez en impacter pour 20 livres sterling, de manière à ce qu'on ne voit pas le paquet, et c'est ouvragé de manière à plaire aux gens. Aussi, je pense qu'elles ne manqueront pas d'acheteurs. J'irai à Laysom et j'achèterai les marchandises pour M. Tom en même temps que les miennes. Il y a le subrécargue d'un petit bâtiment qui va les emporter. Je le connais particulièrement, c'est un homme solide. Et il a sa famille ici dans la ville. Salt, c'est son nom, est un gaillard à cervelle aussi. Et si vous ne me croyez pas, je puis vous conduire vers lui. » L'oncle Glegg restait la bouche béante d'étonnement à cette loquacité sans embarras que son intelligence pouvait à peine suivre. Il regarda Bob d'abord par-dessus ses lunettes, puis au travers, et puis par-dessus de nouveau, tandis que Tom, dans le doute sur les impressions de son oncle, commençait à désirer de n'avoir pas amené ce singulier orateur. Les discours de Bob lui paraissaient moins persuasifs, maintenant qu'il y avait un autre que lui pour les écouter. « Vous avez l'air d'un gaillard entendu, » dit enfin M. Glegg. « Ah, monsieur, c'est vrai, » dit Bob, en faisant un signe d'assentiment. « Je crois quelquefois que ma tête est remuante à l'intérieur comme un vieux fromage, car je suis si rempli de projets que l'un écrase l'autre. Si je n'avais pas Mumps à qui parler, je crois que je deviendrais trop plein d'idées, et qu'elle m'étoufferait. Je suppose que c'est parce que je ne suis pas allé beaucoup à l'école. » « C'est ce que je dois à ma mère. Vous auriez dû m'envoyer un peu plus à l'école, que je lui dis, et alors j'aurais pu lire les livres en m'amusant et conserver ma tête plus froide et plus vide. Parbleu, elle est joliment à l'aise à présent, ma vieille mère. Elle mange sa viande, rôtie ou en ragoût, aussi souvent qu'elle le veut, car j'amasse tant d'argent qu'il faut que je prenne une femme pour me le dépenser. Mais c'est embêtant, une femme, et Mumps pourrait ne pas l'aimer. » L'oncle Glegg, qui se posait comme un homme aimant la plaisanterie, depuis qu'il s'était retiré des affaires, commençait à trouver Bob amusant. Mais il avait encore à placer un reproche qui lui faisait garder son sérieux. « Ah, dit-il, je croirais bien que vous ne savez que faire pour trouver à dépenser votre argent. Autrement, vous ne garderiez pas ce gros chien pour manger autant que deux chrétiens. C'est une honte, une honte. » Il parlait avec plus de tristesse que de colère, et il ajouta bientôt, « Mais voyons, parlons un peu de cette petite affaire, Tom. Je suppose que vous avez besoin d'une petite somme pour vous aventurer. Mais où est votre propre argent? Vous ne le dépensez pas tout, eh ?»« Non, monsieur, dit Tom en rougissant, mais mon père répugne à le livrer, et je n'aime pas à le presser à cet égard. Si je pouvais me procurer 20 ou 30 livres pour commencer, je pourrais en payer le taux à 5%, et arriver ainsi à me faire un petit capital à moi pour continuer sans prêt. « Eh eh !» dit M. Glegg d'un ton d'approbation. « Ce n'est pas une mauvaise idée, et je ne dis pas que je ne sois pas votre homme. Mais il sera aussi bien pour moi que je vois ce Salt dont vous parlez. Et puis, voici votre ami qui vous offre d'acheter des marchandises pour votre compte. Peut-être avez-vous quelqu'un comme répondant, si on vous met l'argent en main. » ajouta le prudent vieux monsieur en regardant Bob par-dessus ses lunettes. « Je ne pense pas que ce soit nécessaire, mon oncle. Au moins, je veux dire que ce ne serait pas nécessaire pour moi, parce que je connais bien Bob, mais peut-être serait-il juste pour vous d'avoir quelques garanties. « Vous avez votre 10% pour l'achat, je suppose, » dit M. Glegg en regardant Bob. « Non, monsieur, » dit Bob, d'un air presque indigné. « Je n'ai pas offert de cueillir une pomme pour M. Tom, dans le but d'en mordre un morceau moi-même. Quand je joue des tours aux gens, il faut que la plaisanterie soit plus complète. Bien, mais il n'y a rien que de juste à ce que vous retiriez un petit 10%, dit M. Glegg. Je n'ai pas bonne opinion des transactions où les gens font les choses pour rien. Cela me paraît toujours mauvais. Eh bien, alors, dit Bob, dont la finesse comprit tout de suite ce qui était sous-entendu, je vous dirai ce que je gagne par là. Et c'est de l'argent dans ma poche, au bout du compte. Je me fais paraître plus important en faisant un plus gros achat. Voilà à quoi je pense. Parbleu, je suis un fin gaillard que je suis. « Monsieur Glegg, » dit une voix grondeuse de la fenêtre ouverte du parloir, « venez-vous prendre le thé, ou bien comptez-vous rester à causer avec des colporteurs jusqu'à ce que vous soyez assassiné en plein jour ?»« Assassiné ?» dit Monsieur Glegg. « De quoi ma femme s'avise-t-elle ? C'est votre neveu Tom qui est venu me parler d'une petite affaire. Assassiné, oui. Il n'y a pas si longtemps qu'un colporteur a assassiné une jeune femme dans un endroit isolé, lui a volé son dé et a jeté son corps dans un fossé. « Non, non, » dit M. Glegg d'un ton conciliant. « Vous pensez à cet homme sans jambes qui conduisait une carriole. » « Eh bien, c'est la même chose, M. Glegg. Seulement, vous aimez à me contredire. » et si mon neveu est venu pour une affaire, il serait plus convenable que vous l'ameniez dans la maison et que vous fissiez connaître à sa tante ce qui en est, au lieu de chuchoter ainsi dans les coins comme des conspirateurs et des traîtres. « Bien, bien, » dit M. Glegg, « nous allons entrer maintenant. »« Vous n'avez pas besoin de rester là, vous, » dit Mme Glegg d'une voix forte, plus en rapport avec la distance morale qu'elle établissait d'elle à Bob qu'avec l'éloignement matériel. « Nous n'avons besoin de rien. Je n'achète rien des porte-balles. Ayez soin de fermer la porte après vous. » « Arrêtez un peu, pas si vite, » dit M. Glegg. « Je n'ai pas encore terminé avec ce jeune homme. »« Entrez, Tom, entrez, » ajouta-t-il en montant par la porte-fenêtre. « M. Glegg, » dit sa femme d'un ton fatal, « si vous allez faire entrer cet homme et son chien sur mon tapis, sous mes yeux, ayez la bonté de me le faire savoir. Une femme a le droit de questionner, j'espère. » « Ne vous mettez pas en peine, madame, » dit Bob en touchant sa casquette. Il vit instantanément que Mme Glegg était une pièce de gibier qui méritait qu'on prît la peine de courir sus, et fut impatient de se mettre en chasse. « Nous resterons ici sur le gravier, Mumps et moi. Mumps connaît son monde, il le connaît. Je pourrais l'exciter une heure de suite avant qu'il s'attaquât à une véritable dame comme vous. C'est étonnant comme il connaît quelles sont les dames qui ont une bonne façon et comme il les aime quand elles ont une belle tournure. « Ma foi, » ajouta Bob en posant sa balle par terre, « c'est mille fois pitié qu'une dame telle que vous ne fasse rien avec un colporteur, au lieu d'aller dans ces boutiques de nouveautés, où il y a une demi-douzaine de beaux élégants, aux mentons relevés par de raides cravates, qui les font ressembler à des bouteilles à bouchons façonnés, et qui doivent vous tirer leur dîner de la vente d'un morceau de calicot. » Il saute aux yeux que vous devez leur payer trois fois plus qu'à un colporteur, qui offre la manière naturelle de se procurer les marchandises, qui ne paye point de loyer et qui n'est pas forcé de s'étrangler jusqu'à ce que les mensonges sortent, qu'il le veuille ou non. Mais, madame, vous savez mieux que moi ce qui est préférable. Vous pouvez voir à travers ces boutiquiers, j'en suis sûr. Oui, je le pense, et aussi à travers les colporteurs, observa Mme Glegg, voulant indiquer que la flatterie de Bob n'avait produit aucun effet sur elle. Tandis que son mari, se tenant en arrière, les mains dans les poches et les jambes écartées, clignait des yeux et souriait de plaisir conjugal à la probabilité que sa femme fût circonvenue. « Ah, certainement, madame, » dit Bob, « et vous devez avoir eu affaire avec une foule de colporteurs quand vous étiez petite fille, avant que monsieur qui est là eût eu le bonheur de jeter les yeux sur vous. Je sais où vous demeuriez, je le sais bien. J'ai souvent vu la maison, une maison de pierre avec des degrés. » « Ah oui, il y en avait, » dit Mme Glegg en versant le thé. « Vous savez donc quelque chose de ma famille. Êtes-vous parent de ce colporteur qui louchait et qui apportait ordinairement de la mousseline d'Irlande ?»« Voyez-vous ça, » dit Bob d'une manière évasive. « N'ai-je pas dit que les meilleurs marchés que vous vous rappeliez avoir faits dans votre vie étaient avec des colporteurs ?» « Et, voyez-vous, un d'eux qui louche vaut mieux qu'un boutiquier qui voit juste. » « Vraiment, si j'avais eu le bonheur de visiter la maison de pierre avec ma balle, qui est là par terre, caressant et frappant avec éloquence sur le paquet de son poing, et que les jeunes filles eussent toutes été sur les degrés de pierre, ça aurait été quelque chose d'ouvrir ma balle. » « Ce n'est plus qu'aux pauvres maisons que s'adresse maintenant le colporteur, à moins que ce ne soit aux domestiques. » Ce sont de tristes temps. Voyez, madame, comparez les cotonnades imprimées à présent et ce qu'elles étaient quand vous en portiez. Mais vous ne voudriez pas mettre quelque chose comme ça sur vous à présent, je le sais bien. Il faut que les étoffes que vous achetez soient de première qualité, quelque chose qui puisse durer aussi bien que vos propres traits. Oui, de meilleure qualité que tout ce que vous pouvez colporter. Vous n'avez rien de première qualité que de l'impudence, j'en suis sûr, dit Mme Glegg, avec un sentiment de triomphe de son invincible sagacité. « Monsieur Glegg, êtes-vous disposé à vous asseoir enfin pour prendre le thé ? Tom, voici une tasse pour vous. » « Vous dites vrai en ceci, madame, » dit Bob. « Ma balle n'est pas pour les dames comme vous. Le temps est passé où les pratiques prenaient du si bon marché. Un petit défaut ici ou là, qu'on peut couper ou que personne ne verra quand ce sera porté. Mais ce n'est pas convenable de l'offrir à des gens riches qui peuvent payer pour l'apparence et pour ce que personne ne voit. Je ne suis pas homme à vous offrir d'ouvrir ma balle, madame. Non, non, je suis un importun, comme vous dites, madame. Il y en a tant dans ces temps-ci, madame, mais je ne suis pas encore à ce point-là. Enfin, quelle marchandise avez-vous dans votre bal, dit madame Glegg. Des choses de belles couleurs, je suppose, des châles et autres.
De toutes sortes, madame, de toutes sortes, dit Bob en posant le pouce dessus.
Mais n'en disons plus rien, s'il vous plaît. Je suis ici pour les affaires de monsieur Tom, et je ne suis pas homme à prendre son temps pour les miennes.
Et je vous prie, qu'est-ce que cette affaire qu'on doit me laisser ignorer, dit madame Glegg, qui, attirée par deux curiosités, devait en abandonner une.
Un petit plan du neveu Tom que voilà, dit le bon monsieur Glegg, et pas tout à fait mauvais, je pense. Un petit projet pour faire de l'argent. C'est bien là les plans que doivent former les jeunes gens qui ont leur fortune à faire, n'est-ce pas, Jane?
Mais j'espère que ce n'est pas un plan où il attend que ses amis doivent tout faire pour lui.
Car c'est ce que pensent la plupart des jeunes gens de nos jours.
Et je vous en prie, qu'est-ce que ce colporteur a à faire avec ce qui se passe dans notre famille?
Ne pouvez-vous pas parler vous-même, Tom, et dire la chose à votre tante, comme doit le faire un neveu?
C'est Bob Jakin, ma tante, dit Tom, en tenant en bride de l'irritation que lui donnait toujours la voix de tante Glegg. Je l'ai connu depuis que nous étions enfants. C'est un excellent garçon, toujours disposé à me rendre service. Il a acquis quelque expérience en envoyant des marchandises hors du pays, une petite partie de cargaison comme spéculation particulière, et il pense que si je pouvais commencer à travailler un peu dans le même genre, je pourrais gagner quelque argent. On en retire un gros intérêt de cette manière.
Un gros intérêt, dit tante Glegg avec vivacité, et qu'appelez-vous un gros intérêt?
10 ou 12%, dit Bob, une fois les frais payés.
Alors, pourquoi ne m'a-t-on pas fait connaître ces choses-là plus tôt, monsieur Glegg? Dit madame Glegg en se tournant vers son mari d'un ton de vif reproche.
« Ne m'avez-vous pas toujours dit qu'on ne pouvait trouver plus de 5% ?»«
Bah, bah, ça ne veut rien dire, ma chère femme, dit monsieur Glegg. Vous ne pourriez faire du commerce, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas tirer plus de 5% avec sécurité. »«
Mais, madame, je puis faire valoir un peu de votre argent, ce qui sera le bienvenu, si vous voulez encourir le risque.
Ce n'est pas qu'il y ait aucun risque à courir. Mais, si vous pensiez à prêter une petite somme à monsieur Tom, il vous paierait le 6%, et il en retirerait aussi une bagatelle pour lui. Et une dame aussi bonne que vous aurait plus de plaisir à utiliser son argent si son neveu en retirait quelque profit.
Qu'en dites-vous, madame Glegg? Dit monsieur Glegg.
J'ai l'idée, quand j'aurai pris quelques renseignements de plus, de mettre Tom en train avec un petit œuf d'amorce. Il m'en paiera l'intérêt, vous savez. Et si vous avez quelques petites sommes mises de côté, qui se repose dans quelque bout de bas, ou que...
Monsieur Glegg, cela surpasse tout. Vous irez bientôt avertir les vagabonds pour qu'ils viennent me voler.
Vous irez bientôt avertir les vagabonds pour qu'ils viennent me voler.
Bon, bon, comme je disais, j'ajouterai de quoi faire le 50. Ce sera un joli commencement de nid. Et Tom?
Vous ne comptez pas sur moi, monsieur Glegg, j'espère. Vous feriez de jolies choses de votre argent, je n'en doute pas.
« Bien, bien, dit monsieur Glegg, presque rudement. Nous nous passerons de vous, alors.
J'irai avec vous voir ce Salt, ajouta-t-il en se tournant vers Bob.
Et maintenant, je suppose que vous irez d'un extrême à l'autre, monsieur Glegg, dit sa femme, et que vous voudrez me mettre en dehors de l'affaire de mon neveu.
Je n'ai nullement dit que je ne voulusse pas y mettre quelque argent.
Je ne dis pas que ce soit 20 livres, quoique vous soyez si prompt à le décider pour moi. Mais il verra un jour si sa tante a raison de ne pas risquer pour lui ce qu'elle a épargné, avant qu'il soit prouvé que ce ne sera pas perdu.
Ah, ce serait une agréable manière de risquer que celle-là, dit monsieur Glegg, clignant imprudemment de l'œil à Tom, qui ne put s'empêcher de sourire. Mais Bob arrêta l'indignation de la dame.
Ah, madame, dit-il avec admiration, vous savez ce qui en est, vous le savez bien.
Et ce n'est rien que de juste. Vous voulez voir comment réussit la première partie, et alors vous vous y mettez d'une belle manière. Ma foi, c'est une bonne affaire que d'avoir de sages parents. J'ai commencé à faire mon nid, comme le dit mon patron, rien qu'à l'aide de ma finesse, 10 sovereigns seulement, gagnés en éteignant le feu au moulin de Torrey. Et ça s'est grossi et grossi peu à peu, jusqu'à ce que j'eusse comme une affaire de 30 livres à avancer, tout en mettant ma mère à son aise. Je pourrais bien en gagner davantage, si je n'étais pas aussi faible avec les femmes. Mais je ne puis m'empêcher de leur laisser faire de trop bon marché. Voilà ce paquet, par exemple. Le frappant rapidement, tout autre individu en tirerait une jolie somme, mais moi, ma foi, je le vendrais à peu près pour ce que je l'ai payé. Avez-vous un peu de bon tulle à présent, dit Madame Glegg, d'un ton de protection, se levant de la table à thé et pliant sa serviette.
Oh, madame, rien que vous puissiez juger digne d'être regardée.
Ce serait une honte de vous le montrer. Ce serait vous faire insulte. Mais laissez-moi voir, dit Madame Glegg, toujours condescendante. Quand même ce seraient des marchandises avariées, elles peuvent être de bonne qualité.
Non, madame, je connais ma place, dit Bob, en soulevant sa balle et la mettant sur ses épaules.
Je ne vais pas exposer l'infériorité de mon commerce à la critique d'une dame comme vous. Les balles ont dégénéré dans ce monde. Cela vous crèverait le cœur de voir la différence. Je suis à vos ordres, monsieur, quand vous voudrez aller voir Salt.
Chaque chose en son temps, dit M. Glegg, ne désirant point interrompre ce dialogue.
A-t-on besoin de vous au magasin, Tom?
Non, monsieur, j'ai laissé Stowe à ma place.
Allons, posez votre balle et laissez-moi voir, dit Madame Glegg, en approchant une chaise de la fenêtre et s'asseyant avec beaucoup de dignité.
Ne le lui demandez pas, madame, dit Tom d'un air suppliant.
Trêve de bavardage, dit Madame Glegg sévèrement, et faites ce que je vous dis.
Ah, madame, je n'y tiens pas, bien sûr, dit Tom, en posant lentement sa balle sur les degrés et commençant à le détacher avec mauvaise grâce.
Mais il sera fait comme vous l'ordonnez.
Mettant plusieurs pauses entre chaque phrase.
Ce n'est pas que vous deviez acheter une seule chose de moi. J'en serais fâché pour vous, car pensez à ces pauvres femmes des villages par là qui ne s'éloignent jamais de 100 pas de leur maison. Ce serait dommage que quelqu'un achetât jamais ce qui peut leur convenir. Vraiment, c'est une fête pour elles que de me voir arriver avec ma balle. Et je ne retrouverai jamais d'aussi bonnes emplettes à leur offrir. Bref, je n'ai pas le temps à présent, car je pars pour Laysom.
Voyez ceci maintenant, continua Bob en se pressant et en montrant un mouchoir de laine écarlate avec une palme brodée au coin.
Voilà de quoi faire venir l'eau à la bouche d'une jeune fille, et pour 2 shillings seulement. Et pourquoi?
Parce qu'il y a un petit trou de souris dans ce bout uni, et ma foi, je pense que les souris et les moisissures sont faites par la Providence afin de diminuer un peu le prix des marchandises pour les femmes de bonne mine qui n'ont que peu d'argent.
Si ce n'étaient les souris, maintenant, tous les mouchoirs qu'elles ont seraient allés aux belles dames riches comme vous, madame, à 5 shillings pièce, pas 1 liard de moins.
Mais que fait la souris?
Voici, elle ronge pour 3 shillings des prix en un moment, et alors un colporteur comme moi peut les porter aux pauvres filles qui demeurent sous le sombre chaume pour leur faire un peu de brillante lumière. Vraiment, ça vaut un bon feu que de regarder ces mouchoirs.
Bob les tenait à distance pour les faire admirer, mais Madame Glegg lui dit sèchement
« Oui, mais personne n'a besoin de feu dans cette saison. Mettez de côté ces choses de couleur et montrez-moi vos tulles si vous en avez. »
« Ah, madame, je vous ai dit ce qui arriverait, » dit Bob, en jetant de côté ses étoffes de couleur d'un air désespéré.
« Je savais que cela vous serait désagréable de regarder d'aussi pauvres articles que ceux que je porte. »
Voici une pièce de mousseline imprimée, par exemple. À quoi sert que vous la regardiez?
Vous pourriez aussi bien regarder ce que mangent les pauvres gens. Ça ne ferait que vous ôter l'appétit.
Il y en a une aune au milieu où le dessin est manqué.
Sans ça, c'est une mousseline que la princesse Victoria aurait pu porter.
Mais, ajouta Bob, en la jetant par terre derrière lui, comme pour épargner les yeux de Madame Glegg, elle sera achetée par la femme du revendeur à Phil End. C'est là que j'irai. 10 shillings pour le tout. 10 aunes en comptant l'endommagé, le prix en aurait été 25 shillings, pas un penny de moins.
Mais je n'en dirai pas davantage, madame.
Cela ne vous fait rien, une pièce de mousseline comme celle-là, quand vous avez les moyens de payer 3 fois plus une chose qui n'est pas la moitié si bonne.
C'est de tulle que vous parliez.
Bien, j'en ai une pièce dont vous pourrez vous amuser.
Apportez-moi cette mousseline, dit Madame Glegg. C'est de l'écru. J'ai du goût pour l'écru.
Eh, mais c'est une chose gâtée, dit Bob d'un air dépréciateur.
Vous n'en pourriez rien faire, madame. Vous la donneriez à la cuisinière, j'en suis sûr, et ce serait dommage. Ce n'est pas convenable pour des domestiques.
Prenez-la et mesurez-la devant moi, dit Madame Glegg d'un ton d'autorité. Bob le fit d'un air de déplaisir manifeste. Voyez ce qu'il y a de plus que la mesure, dit-il, en présentant la demi-aune extra, tandis que Madame Glegg s'occupait à examiner la partie endommagée, en renversant la tête en arrière, pour voir jusqu'à quel point on ne verrait pas le défaut du dessin en s'éloignant. « Je vous en donnerai 6 shillings, dit-elle, en la jetant par terre de l'air d'une personne qui donne son ultimatum. « Ne vous ai-je pas dit à présent, madame, que cela blesserait vos yeux de regarder mon ballot ? Ce morceau gâté vous a tourné le cœur, je le crois, dit Bob, en pliant la mousseline avec la plus grande rapidité et paraissant sur le point de fermer sa balle. Vous aviez l'habitude de voir apporter des articles d'un tout autre genre par les colporteurs quand vous demeuriez à la maison de Pierre. Les balles ont dégénéré dans ce monde, je vous l'ai dit. Les marchandises sont pour les gens du peuple. Madame Pepper me donnera 10 shillings de cette mousseline et sera fâchée que je ne lui en ai pas demandé davantage. De tels articles font un bon usage. Ils gardent leur couleur jusqu'à ce que les fils soient fondus dans le cuvier à lessive. Et ça n'arrivera pas tant que je serai jeune. Eh bien, 7 shillings, dit Madame Glegg. N'y pensez plus, madame, je vous prie. Voici un morceau de tulle, alors, si vous voulez le voir, avant que je ferme ma balle. Justement, pour que vous puissiez comprendre à quoi en est venu mon commerce. Ce sont des mouches et des entrelacs, vous voyez, superbes, mais jaunis. Il a été mis de côté et a pris cette mauvaise couleur. Je n'aurais jamais pu acheter de telles tulles. S'il n'avait pas été jaune. Vraiment, il m'a fallu une grande étude pour connaître la valeur de ces articles. Quand j'ai commencé à porter la balle, j'étais aussi ignorant qu'un porc. Tulle ou calicot, c'était tout un pour moi. Je pensais que les choses les plus épaisses étaient celles qui avaient le plus de valeur. J'ai été mis dedans d'une manière terrible, car je vais droit mon chemin, et je ne connais aucune malice, madame. Je puis bien dire que je ne vois pas plus loin que mon nez. Car si je voulais aller plus loin, je serais bientôt perdu. Et j'ai donné 5 shillings et 18 pence pour cette pièce de tulle. Si je vous disais quelque chose de plus, ce serait d'une bourde. Et j'en demanderais 5 shillings et 18 pence, pas un penny de plus, car c'est un article de dame, et j'aime à arranger les dames. 5 shillings et 18 pence pour 6 aunes. C'est aussi bon marché que si on ne payait que la saleté qui est dessus. « Je ne craindrais pas d'en avoir 3 aunes, dit Madame Glegg. « Mais il n'y en a en tout que 6, dit Bob. « Non, madame, ce n'est pas digne de vous. Vous pouvez aller au magasin demain et trouver le même modèle fraîchement blanchi. Ça ne vous coûtera que 3 fois plus. Qu'est-ce que c'est pour une dame comme vous ?» Il serra énergiquement son ballot. « Allons, sortez-moi cette mousseline, dit Madame Glegg. « Voici 8 shillings. « Vous voulez plaisanter, madame, dit Bob. » en levant les yeux d'un air riant. « J'ai vu que vous étiez une dame gaie dès que je suis venue vers la fenêtre. »« Eh bien, donnez-la-moi, » dit Madame Glegg résolument. « Mais si je vous la cède pour 10 shillings, madame, vous aurez la bonté de ne le dire à personne. » On se moquerait de moi. Les gens du commerce me hurraient s'ils le savaient. Je suis obligé de leur faire croire que je demande plus que je ne le fais de ma marchandise, autrement ils trouveraient que je suis un igot. Je suis bien aise que vous ne pensiez pas à acheter le tulle, car alors j'aurais perdu l'occasion de mes 2 meilleures ventes à Madame Pepper de Phibbs End, et c'est une fameuse pratique. Laissez-moi revoir ce tulle, dit Madame Glegg, soupirant après les mouches et les entrelacs à bon marché, maintenant qu'il disparaissait. Eh bien, madame, je ne puis vous le refuser, dit Bob en le lui présentant. Et voyez ce dessin, vraie marchandise de Laysom. Et maintenant, c'est cette sorte d'article que je recommande à M. Tom d'expédier à l'étranger. C'est une belle affaire pour quelqu'un qui aurait un peu d'argent à y mettre. Cette marchandise de Laysom le ferait prospérer comme par magie. Si j'étais une dame avec quelque argent, j'en connais une pourtant, une qui a mis 30 livres à cette marchandise, une dame qui a une jambe de bois, mais si dégourdie, vous ne la prendriez pas à mettre sa tête dans un sac. Elle veut tout voir clairement d'avance, avant de se mettre en route à la hâte. Eh bien, elle a prêté 30 livres à un jeune homme qui était dans la partie des draps, et il les a mises en marchandises de Laysom. Et un subrécargue de ma connaissance, ce n'est pas Salt, les a emportés, et elle a eu 8% du premier coup. et maintenant on ne peut la retenir d'envoyer des marchandises par chaque bâtiment jusqu'à ce qu'elle soit aussi riche qu'un juif. Elle s'appelle Bax. Elle n'est pas de cette ville. Maintenant, madame, si vous voulez avoir la bonté de me donner le tulle... »
Voilà 15 shillings, donc, pour le tout, dit madame Glegg, mais c'est honteusement cher.
Non, madame, vous ne direz pas ça quand vous serez à prier à genoux dans l'église dans 5 ans d'ici. Je vous fais cadeau de ces articles, en vérité. Ces 18 pence me coupent mon profit, aussi net qu'un rasoir. Maintenant, monsieur, continua Bob en se chargeant de sa balle, je serais bien aise de m'occuper de la fortune de monsieur Tom. Et je voudrais bien avoir 20 autres livres à avancer pour moi-même. Je ne resterai pas à dire mon catéchisme avant de savoir comment les employer.
Arrêtez un instant, monsieur Glegg, dit la dame, comme son mari prenait son chapeau. Vous ne me laissez jamais l'occasion de parler. Vous allez partir maintenant pour tout terminer sur cette affaire, et vous reviendrez m'apprendre que c'est trop tard pour que je lise quelque chose. Comme si je n'étais pas la tante de mon neveu et la tête de la famille du côté de sa mère, et que j'ai mis de côté des guinées, toutes de bon poids pour lui, de sorte qu'il apprendra à qui il doit du respect quand je serai dans mon cercueil.
« Bien, madame Glegg, dites alors ce que vous entendez, dit monsieur Glegg, à la hâte.
Eh bien, je désire qu'on ne fasse rien sans que je le sache. Je ne dis pas que je ne hasarderai pas 20 livres, si vous trouvez que tout est en règle et sûr. Et si je le fais, Tom, conclut madame Glegg en se tournant d'un air imposant vers son neveu, j'espère que vous vous en souviendrez toujours et serez toujours reconnaissant envers une semblable parente. J'entends que vous me paierez l'intérêt, vous savez, je ne suis pas d'avis de donner. Nous n'avons jamais approuvé cela dans ma famille.
Je vous remercie, ma tante, dit Tom, presque fièrement. Je préfère que l'argent me soit seulement prêté.
Très bien. C'est l'esprit d'Hudson, dit sa tante, en se levant pour prendre son tricot, avec le sentiment que toute autre remarque serait maintenant superflue.
Salt, cet individu à la cervelle si remarquable, ayant été découvert au milieu d'un nuage de fumée de tabac à la taverne de l'Ancre, M. Glegg prit des renseignements qui lui parurent assez satisfaisants pour l'autoriser à faire l'avance de l'œuf du nid auquel Mme Glegg contribua de 20 livres pour sa part. Et c'est à ce modeste commencement qu'est due l'explication d'un fait qui, sans cela, vous surprendrait. Savoir la possession d'une somme accumulée par Tom à l'insu de son père, destinée à hâter le lent procédé d'épargne qui devait payer les dettes. Quand son attention fut une fois portée sur cette source de gains, Tom, déterminé à en tirer le plus grand parti, ne perdit aucune occasion d'obtenir des renseignements et d'étendre ses petites entreprises. Pour ne pas en faire part à son père, il fut influencé par un singulier mélange de sentiments opposés qui souvent donnent également raison à ceux qui blâment une action et à ceux qui l'admirent. D'un côté, ce fut le peu de disposition à la confiance qui se trouve souvent entre proches parents, espèce de répulsion qui gâte les relations les plus sacrées de nos vies, et d'un autre côté, le désir de surprendre son père par une grande joie. Il ne voyait pas qu'il aurait mieux valu adoucir le temps qui devait s'écouler jusque-là par une nouvelle espérance et prévenir les conséquences d'une surprise trop soudaine. Au moment de la première rencontre de Maggie avec Philip, Tom avait déjà près de 150 livres lui appartenant en propre. Et tandis qu'il se promenait à la clarté du soir dans les fonds rouges, lui, à cette même clarté, se rendait à Laysom, fier de faire son premier voyage pour le compte de la maison Guest et Compagnie, et retourner dans son esprit toutes les chances de doubler ses gains à la fin d'une autre année, dans le but de laver le nom de son père de cette tache de dette, et peut-être, quand il aurait 21 ans, d'avoir un nouveau point de théâtre pour lui-même sur un grand théâtre d'occupation. Ne le méritait-il pas? Il en était tout à fait sûr.